première fois que des pays africains acceptent et décident de pouvoir réaliser pour eux-mêmes et par eux-mêmes une réalité aussi importante. En l'occurrence, la Grande Muraille Verte, dont l'objectif principal est de lutter contre la désertification, mais aussi contre les effets néfastes des changements climatiques. L'aventure est partie dans les années 2002, à N'Djamena, où les chefs d'État se sont retrouvés et ont émis le souhait et l'idée, en tout cas, de pouvoir réaliser un projet de ce genre. Pendant ce temps, évidemment, ça n'avait rien de réaliste. Bien au contraire, il y a eu même beaucoup qui en ont ri parce qu'ils se disaient que ce n'était pas possible. Alors ça a évolué en 2005, où maintenant les deux présidents Obasanjo du Nigeria et Ablaye Wad du Sénégal ont accepté en fait d'endosser le projet, de le prendre en charge et de démarrer ça pour montrer que ce problème crucial, il faut que les Africains eux-mêmes arrivent à pouvoir apporter des solutions. Cela encore a évolué. En 2007, justement, il y a eu l'approbation. Tous les chefs d'État des 11 pays qui traversent la zone sahélienne ont donné donc leur feu vert. Et le Sénégal a voulu expérimenter d'abord, plonger d'abord, accepter de démarrer. Et c'est pour ça, en 2007, le président Ablaye Wad nous avait chargé d'organiser un séminaire international, un très grand séminaire, pour réfléchir déjà sur la faisabilité de la Grande Muraille Verte, mais aussi et surtout pour proposer des espèces végétales. Sachant que nous sommes dans une zone où les isolettes oscillent entre 200 et 400 mm de pluie par an, donc tout le monde sait que n'importe quelle plante ne peut pas survivre dans des conditions comme ça. Donc nous avons travaillé pendant quelques jours, plusieurs scientifiques, on devait être entre 150 et 200. Et donc, à la fin, nous en avons retenu quelques espèces, parmi lesquelles Balanites, hein, qui est, je crois, qui a dû inspirer mes collègues Gilles et Didier, parce que parmi les espèces retenues, nous avons tout simplement essayé de recopier la nature en essayant de proposer des espèces qui avaient des intérêts écologiques parce qu'elles sont résistantes déjà. Elles pouvaient supporter des périodes de sécheresse très longues et elles avaient aussi une résilience très forte parce qu'elles pouvaient réagir rapidement pour pouvoir survivre. Ça, c'est de un. Mais aussi, on a choisi des espèces qui avaient des fonctions socio-économiques. En l'occurrence, donc, nous avons mené des enquêtes pour savoir quelles sont les espèces que les populations locales utilisaient dans le temps. Et c'est là que nous nous sommes basés pour pouvoir en choisir à peu près 7. Donc, je vous ai cité Balanites, Acacia Sénégal, qui produit la gomme arabique, Acacia Seyal, Sclerocaria, etc., etc. Alors, ensuite est venue maintenant une autre date, en 2009. En 2009, je me rappelle très bien, Gilles, par l'intermédiaire d'un collègue qui est formidable, dont vous avez cité son nom, le professeur Dlamingue, et vous venez me voir avec Gilles, pour me dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous pensez si on créait une structure qu'on appelle l'OHA? Alors, je ne savais pas trop ce que c'était, donc j'étais un peu sceptique. En plus, j'avais des œillères parce que je n'ai jamais travaillé avec des gens qui ne sont pas des scientifiques. J'avais cet esprit tordu qui me disait non, ils vont me faire perdre du temps. Je veux aller très vite. Et donc, voilà. Alors, c'est avec l'arrivée de Jules que nous avons donc créé l'OHM Tesekere, dans lequel Jules a apporté quelque chose que nous n'avions pas. Jusque-là, c'était l'interdisciplinarité, où des scientifiques devait travailler de connivence avec des anthropologues, avec des géographes, avec des historiens, avec des hydrologues. Évidemment, le résultat a été spectaculaire. En fait, on s'est rendu compte qu'avec cette idée-là, cette action-là, nous avons formé beaucoup d'étudiants, aussi bien en master qu'en thèse. Nous avons publié, bon, évidemment, et nous avons publié beaucoup d'articles. Je pense que Priscilla peut en témoigner. Nous avons monté une revue, n'est-ce pas, qui était justement une revue dédiée à l'OHM, hein, et donc qui a, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui en est peut-être au 14e ou au 15e numéro. Donc, ça, ensuite, cela nous a permis de travailler non seulement entre des chercheurs, mais avec les populations locales, avec les femmes pour monter les jardins potagers, etc., etc. Donc, c'était une expérience extrêmement riche. Et bien, la troisième et la quatrième et la dernière date, c'était dans les années 2022. Ces collègues, donc, que je considère comme des gens formidables, Gilles, Lamine Gueye, se sont maintenant associés et on m'a présenté à DJ, n'est-ce pas, qui m'a parlé cette fois-ci de l'Institut de l'Institut Planétès. Alors, et il a apporté quelque chose qui me manquait, c'était la valorisation des résultats scientifiques. Nous, on cherchait, on publiait, on formait des gens, mais on n'avait jamais imaginé que les résultats scientifiques que nous avons trouvés, que nous avons mis en place, on pouvait les valoriser d'une autre manière. Et c'est là où, justement, mon engagement, évidemment, à partir des expériences et à partir du vécu, à partir de ce que j'ai vu, surtout avec les différentes universités d'été qu'on a pu organiser à La Rochelle, à Poitiers, évidemment, ça a donné une conviction encore beaucoup plus forte. Et c'est ça qui fait que, évidemment, je n'ai pas le droit, à chaque fois quand je suis sollicité, de ne pas être présent. Je le fais malgré toutes les difficultés qu'on a, mais en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour apporter ma pierre à l'édifice, effectivement, à l'édifice. Donc, merci encore pour tout. Et donc, je vous dis donc à très bientôt et j'espère que pendant ce séminaire, on arrivera encore à faire plus et mieux que ce que nous avons fait dans le passé.